Au-delà du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est l'histoire d'une arnaque géante. Ça se passe en Hongrie. 1 million d'hectares de terres redistribués au nom de la lutte contre l'accaparement des terres. Cette redistribution devait bénéficier aux petits agriculteurs. C'était l'un des arguments de campagne de celui qui est devenu Premier ministre en 2010, Viktor Orbán.
Le plus grand propriétaire terrien en Hongrie est aussi le propriétaire de la plus grande banque hongroise, OTP Bank. Il détient une entreprise agricole, Bonafarm. Selon les données officielles, cet homme à la tête de la première banque hongroise, plus grand propriétaire terrien en Hongrie, est aussi l'un des principaux bénéficiaires des subventions européennes à l'agriculture.
Et oui, 6 ans plus tard, le tableau est sidérant. 80% des terres ont été distribuées à des personnalités proches du pouvoir. Hongrie, la grande braderie des terres, c'est un reportage de Cerise Maréchaux à écouter tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
C'est contre l'aéroport, mais c'est aussi pour un autre choix de société, je pense. La croissance à tout prix, beaucoup de gens n'en veulent plus, je pense.
Et cette espèce d'aéroport inutile veut foutre dehors des paysans. Et nous, au Larzac, c'était le même problème. À part qu'ici, c'est le fric, et chez nous, c'était l'armée.
Le nouvel aéroport est un projet de l'État qui a été décidé sous le gouvernement de Lionel Jospin et que tous les gouvernements qui ont suivi ont continué de porter. Et qui est soutenu par les régions là, des Pays de la Loire et de la Bretagne, ainsi que les métropoles de Nantes et de Saint-Nazaire. Et puis, s'agissant de l'ordre public, comme nous sommes dans un état de droit, comme vous le savez, il y a eu des événements particulièrement violents, et des plaintes ont été déposées. Là encore, c'est la justice qui prendra les décisions nécessaires.
Des dizaines de fourgons et au moins 500 gendarmes à l'assaut du bocage de Notre-Dame-des-Landes. Il est 6h du matin, les tractopelles ouvrent la voie. Les caméras ne sont pas autorisées à filmer la suite.
Bah, il y a eu des violences au sens où ce matin, ils ont détruit des vitres face à nous, quoi, parce qu'on ne voulait pas sortir la cabane à 6h30 du matin, et qu'ils nous ont complètement gazés à l'intérieur des cabanes pour nous forcer à sortir.
Mais ça ne peut être que violent, on amène 500 gendarmes, voire 1000. Ça ne peut être que violent.
Comment on en est arrivé là? Est-ce que ça n'est pas en train de devenir le boulet du quinquennat, cette affaire d'aéroport?
Le boulet du quinquennat, le caillou au fond de la chaussure du pays qui a accueilli la COP21, construire ou non l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à une quinzaine de kilomètres de Nantes, dans l'ouest de la France, pour remplacer l'aéroport existant jugé trop petit. Demain, les 970 000 électeurs du département de Loire-Atlantique vont donner leur avis par référendum, pour ou contre, un référendum qui n'a rien à voir par la taille et l'enjeu avec celui du Brexit, mais qui a une forte valeur symbolique, car cette idée d'aéroport qui date du milieu des années 60 est devenue l'emblème de la résistance au grand projet d'infrastructure, une incarnation de la période de transition que nous sommes en train de vivre. Et pour en parler avec nous, deux invités, Philippe Subra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut français de géopolitique Université Paris 8 et auteur de « Zone à défendre » de Sivens à Notre-Dame-des-Landes, publié aux éditions de l'Aube. Et Régis Ambroise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome et urbaniste, cofondateur du collectif Paysages de l'après-pétrole et co-auteur du livre Aménager les paysages de l'après-pétrole aux éditions Charles-Léopold Meyer. Vous êtes en duplex de Nancy, donc merci aux équipes de France Bleu Sud-Lorraine de vous permettre d'être avec nous. Philippe Subra, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que ce projet de construction d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et les crispations qui vont avec sont symboliques de l'époque de transition que nous sommes en train de vivre?
Oui, parce que ça prouve à la fois une mobilisation qui n'a pas toujours existé contre des grands projets dont le bilan en termes de développement durable est contestable. Et ça prouve aussi la difficulté des opposants à faire passer leurs idées et à obtenir l'abandon de ces projets. Parce que clairement, les acteurs du territoire sont divisés par rapport à ce projet. Les élus locaux sont presque tous en faveur du projet. C'est évidemment le cas aussi des milieux économiques, patronaux. Et par contre, une partie de la population, localement sur les communes directement concernées, mais aussi dans les métropoles voisines comme Nantes et Rennes, y est opposée.
Régis Ambroise, ce qui est surprenant, c'est que ce projet d'aéroport avait été suspendu dans les années 70 lors de la crise pétrolière, au prétexte justement qu'il ne fallait pas miser sur une augmentation du trafic aérien dans un contexte de potentielle pénurie. Là, nous sommes quand même confrontés au changement climatique. Nous savons que nous devons réduire notre dépendance aux énergies fossiles, mais malgré tout, le gouvernement s'entête à maintenir ce projet. C'est quand même paradoxal. On n'est pas du tout dans l'aménagement d'un paysage après pétrole, là.
Exactement. C'est-à-dire que le côté symbolique de Notre-Dame-des-Landes est lié au fait qu'une certaine partie de la population, au-delà de tous les arguments qui s'opposent, globalement, c'est une sorte de rejet d'un mode de développement qui continue à utiliser au maximum les énergies fossiles comme moteur, alors que ces énergies fossiles sont à l'origine de, non seulement des pollutions qui existent un peu partout, mais également du réchauffement climatique. Et donc, ce mode de développement est en opposition complète avec ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour s'engager dans une transition énergétique responsable qui nous permettrait d'atteindre les objectifs fixés par la COP21.
Parce qu'il n'y a pas que l'aéroport, hein, il y a toutes les infrastructures qui vont avec, c'est-à-dire les autoroutes, les moyens d'accès, etc. C'est beaucoup plus large que simplement une ou deux pistes pour faire atterrir les avions.
Oui, c'est-à-dire que la période d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale, a organisé finalement le territoire au service d'un objectif de modernisation qui était légitime, de développement. Mais le problème, c'est que ce développement était fondé sur un usage extrême des énergies fossiles. Alors au départ, on ne savait pas qu'elles étaient aussi dégradantes pour le milieu, mais c'est le cœur même du développement que sont l'usage de ces énergies et matières fossiles qui sont remises en cause, notamment par le réchauffement climatique. Et donc, si on s'oppose à ce mode de développement, eh bien, au même titre qu'après-guerre, on a organisé l'espace au service d'un développement fondé sur le pétrole, que ce soit dans les villes, avec les transformations de l'urbanisme au service de la voiture, avec tous les parkings qui ont été créés, les sorties de ville, les zones commerciales, etc. Enfin, il y a eu une transformation radicale de l'urbanisme, et pareil dans les campagnes. On a organisé l'espace agricole pour qu'il puisse utiliser au mieux l'énergie fossile que constituait le pétrole et les ressources liées, notamment les engrais chimiques qui dépendent également du pétrole, etc. Donc on a fait des remembrements, plus de la moitié de la... une vingtaine de mille opérations de remembrement ont eu lieu dans les 50 dernières années. Donc c'est quelque chose de considérable.
Et maintenant, voilà. Il faut un peu faire marche arrière, en tout cas relocaliser davantage, puisqu'on sait bien que les énergies fossiles ne seront pas disponibles jusqu'à la nuit des temps et qu'en plus, elles sont extrêmement polluantes. Alors les pharaons ont construit des pyramides, hein, Louis XIV, le château de Versailles, mais les présidents de la Ve République française, avec cette idée d'énergie fossile disponible, nous ont légué des autoroutes, des lignes de train à grande vitesse, un centre d'enfouissement de déchets nucléaires même. C'est ce que dénonce en tout cas le collectif qui a écrit le petit livre Renoir des grands projets inutiles, publié aux éditions du Passager clandestin. Stéphane Kerkhoff, délégué général de l'association Agir pour l'environnement et co-auteur de ce livre.
Ils sont le symptôme d'un manque d'imagination de responsables politiques qui vont aller chercher dans les vieilles recettes des 30 glorieuses des solutions et globalement met en lumière l'absence d'imagination de ces responsables politiques qui, par réflexe, vont aller systématiquement considérer que la nature est une source dans laquelle on peut puiser et qui va globalement accroître le rendement et accroître les retours sur investissement, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'environnement devrait être considéré en tant que tel et non pas comme un vivier dans lequel on puise. Les responsables politiques ont un peu tendance à courir après les initiatives locales qui sont déjà mises en œuvre par les citoyens. Ce qui se crée aujourd'hui sur les ZAD, c'est bien plus qu'une contestation d'un projet. C'est l'émergence d'une contre-société qui n'aurait plus besoin d'une publicité ou de la publicité qui stimule perpétuellement le désir et crée en permanence du besoin et assèche toute relation interindividuel, mais pour le coup, on constate que tout ça foisonne localement. Donc, c'est ça qui est assez intéressant et qui nous remplit d'optimisme, c'est qu'on constate que cette crise de la croissance potentiellement peut déboucher par quelque chose qui, globalement, peut être de nature à réhabiliter la limite, la fraternité et l'envie de se parler en se regardant dans les yeux.
Alors Philippe Subra, c'est en octobre 2012 hein, quand les policiers ont délogé les activistes qui occupaient le futur site de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes que nous avons découvert cette nouvelle forme de contestation des projets d'aménagement, les ZAD, les zones à défendre. Comment vous définiriez cette dynamique ?
Alors c'est une nouvelle façon de lutter contre des projets d'aménagement. On a connu des luttes menées par des écologistes ou par des riverains, le fameux syndrome ou phénomène NIMBY.
C'est not in my backyard, voilà, pas dans mon jardin.
Pas dans mon jardin.
On peut être par exemple pour les éoliennes, mais on n'en veut pas
chez soi. Éoliennes, les autoroutes, les aéroports, etc. Et là, on a une nouvelle composante de ce type de conflit, qui est le fait de militants altermondialistes, et qui introduisent une façon de lutter qui est radicalement différente, puisqu'ils occupent en permanence le site du projet, empêchant le chantier de démarrer, et donc tendant en fait au maître d'ouvrage et au pouvoir public une sorte de piège. Soit ils acceptent l'occupation et de fait ils renoncent au projet, soit ils cherchent à obtenir l'évacuation et ils s'exposent à des affrontements qui vont donner des images, qui seront repris par les médias et qui sont de nature à faire basculer une partie de l'opinion publique en faveur des opposants. Et donc ça, c'est tout à fait nouveau. Ça ne veut pas dire que les ZAD sont en permanence des zones d'affrontement. La plupart du temps, il ne s'y passe rien. Mais quand le gouvernement à Notre-Dame-des-Landes, en octobre 2012, a essayé d'obtenir l'évacuation, il l'a obtenu dans un premier temps et finalement, il y a eu réoccupation avec un soutien massif d'une partie de la population nantaise. Et finalement, il a renforcé la ZAD. Donc c'est vraiment un problème difficile à résoudre, à la fois pour le gouvernement et pour les maîtres d'ouvrage et les élus locaux favorables au projet.
Et il n'y a pas que Notre-Dame-des-Landes, hein, il y en a d'autres.
Alors il y a une dizaine de ZAD, dont trois relativement importantes, outre Notre-Dame-des-Landes, Sivens, qu'on connaît bien, puisqu'il y a eu l'épisode tragique de la mort de Rémi Fraisse, tué par une grenade lancée par les forces de l'ordre, et il y a Roibon, et puis d'autres beaucoup plus petites. Voilà. Donc ça reste un phénomène.
Il n'y en a pas qu'en France, hein, d'ailleurs.
Alors, il n'y en a pas qu'en France, encore que le phénomène est quand même assez caractéristique de la France, mais il y a quelques exemples ailleurs, en Allemagne, en Belgique. Et puis, il y a le mouvement NOTAV, TAV, en Italie, dans le Val de Suse, opposé à la construction du tunnel Lyon-Turin et de la LGV Lyon-Turin, qui présente énormément de caractéristiques communes avec Notre-Dame-des-Landes.
Alors, en même temps, ces mobilisations impliquent peu de monde, finalement, à l'échelle de la population. Et c'est difficile, vous disiez, parfois, quand il y a des images de violence, ça permet aux gens d'adhérer à la cause des zadistes, comme on les appelle, et aussi, ça entraîne une certaine désaffection. Et
c'est-à-dire, il y a un risque à l'usage de la violence. L'usage de la violence est nécessaire pour que la ZAD continue. Une violence de résistance hein, physique à l'évacuation. Si elle est trop importante, cette violence, si elle déborde dans les centres-villes proches, comme à Nantes, ça a été le cas, si sa responsabilité est attribuée aux zadistes, l'effet est totalement contre-productif. Et c'est ce qui risque de faire gagner, d'ailleurs, les partisans du projet de Notre-Dame-des-Landes dimanche au prochain référendum.
Mais alors, est-ce que ça veut dire, au-delà de ces phénomènes de violence, le fait que ces zadistes se mobilisent, par exemple, contre ce projet d'aéroport, on pourrait se dire ils se mobilisent pour l'intérêt général dans l'absolu. Donc pourquoi est-ce que la population n'est pas plus mobilisée pour ces enjeux-là? On voit bien que sur d'autres thèmes, les gens se mobilisent davantage.
Mais tout le débat, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'intérêt général. Et on est passé d'une situation qui prévalait dans les années 60 et 70 où il y avait un consensus général que rappelait Régis Ambroise sur la modernisation, l'équipement du pays, à une situation contraire de dissensus, c'est-à-dire où chacun a une conception différente de l'intérêt général dans son contenu. Est-ce que c'est la priorité au développement économique ou est-ce que c'est la priorité à la protection de l'environnement? Et même dans ces échelles géographiques, c'est-à-dire il y a un intérêt général planétaire, national, local, voire micro-local, avec des contenus qui sont différents selon les acteurs. Donc tout le monde continue à se réclamer de l'intérêt général, mais chacun avec sa propre conception de l'intérêt général.
Alors Régis Ambroise, pour votre collectif Paysage de la paix pétrole, hein, vous dites qu'il faut accepter de remettre en cause les valeurs qui ont fondé justement le développement des sociétés carbonées et mettre la question de l'aménagement du territoire au cœur des débats. Ça pourrait se traduire comment concrètement ?
Si l'on regarde un peu comment se sont passés le développement dans les 50 dernières années, les questions d'aménagement, les questions de choix politiques, les questions énergétiques étaient extrêmement centralisées. l'énergie était concentrée par EDF, les grandes décisions d'aménagement, c'était la Datar, etc. Et la population elle-même, les territoires, l'expression des territoires était assez faible. Si on veut s'engager dans une direction réelle vers le développement durable, eh bien, ce type d'organisation sociale doit également évoluer. Si on considère que pour arriver à régler les enjeux planétaires, on ne pourra y arriver que par la somme des solutions qui auront été trouvées par les territoires à chacun à leur niveau, ça veut dire que du coup, la population doit être mobilisée pour aider ses élus, ses responsables politiques, les économistes qui travaillent dans leur secteur à trouver les bonnes solutions. Alors que quand on organisait l'espace sociétal, eh bien, il était fait par quelques grands directeurs des administrations centrales, des routes ou de la data. Eh bien, il va falloir qu'on essaye de retravailler avec ce que chacune des régions peut offrir comme solution, comme type de solution, que ce soit en termes économiques, que ce soit en termes environnementaux, que ce soit en termes énergétiques. Et ne pas continuer à imposer un même mode d'organisation spatiale, simplement, il serait un peu plus vert. Je vais donner un petit exemple. Si on commence à dire, ben voilà, aujourd'hui, on a trouvé une solution avec les éoliennes et on va mettre des éoliennes partout, ce que peut être tenté de faire, évidemment, les grands promoteurs d'éoliens, eh bien, ça peut mener à des catastrophes, au même titre que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Il faut que ce soit les populations qui soient vraiment le moteur de ces décisions. Alors, c'est vrai que dans votre collectif pour les paysages de l'après-pétrole, vous réunissez des urbanistes, des paysagistes, des ingénieurs, des agronomes. C'est assez intéressant parce que ce sont des personnes qui sont d'horizons très diverses. Mais on voit bien que ça va être quand même une véritable révolution culturelle parce qu'on a été habitué à cette centralisation. C'est difficile pour les personnes. On voit bien là un référendum pour ou contre un aéroport, c'est inédit en France. Donc on est au début de cette nouvelle démocratie du territoire.
Disons au début, on espère évidemment que ça ira comme dans ce sens-là, mais c'est pas joué, hein, c'est un travail. Et par exemple dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, c'est vrai que c'est un projet contre un non-projet. C'est un peu dommage. C'est-à-dire que si on est contre le nouveau projet de Notre-Dame-des-Landes, eh bien, il faut qu'on puisse en profiter pour essayer de proposer un projet d'aménagement de la région, hein, qui aille plus loin que évidemment simplement Nantes, mais qui soit orienté directement vers cet objectif de trouver des moyens de se passer de ces énergies fossiles et de trouver des alternatives. Et une partie de ces alternatives viendront d'une mobilisation de la population qui connaît les richesses, les atouts de son territoire pour les mettre en valeur. Chaque territoire est issu d'une longue histoire, d'une géographie particulière, et en s'appuyant sur des démarches paysagères de connaissance de ces atouts, on peut être amené à trouver des solutions qui sont bien plus performantes une simple généralisation de promoteurs d'énergie nouvelle ou de promoteurs d'éléments qui auraient une petite couleur verte et qui s'imposeraient à tout le monde.
Philippe Jubra.
Dans le schéma idéal des défenseurs de l'environnement, la population locale est pour le développement durable. Dans la réalité, ce n'est pas forcément évident. Il y a toute une série d'endroits où une part très importante, parfois majoritaire de la population locale, est pour le projet de développement parce qu'elle va en tirer des bénéfices économiques, des emplois, des ressources fiscales pour la mairie. À Roibon, il y a un projet de Center Park, c'est-à-dire d'équipements hôteliers touristiques avec des bungalows, une bulle aquatique, etc. Ça n'a rien d'écologique. Simplement, c'est plus de 700 emplois dans une commune de 1300 habitants en déclin et c'est chaque année 3 millions d'euros pour la commune. Donc, il y a un soutien important de la population et les opposants sont plutôt de l'extérieur. Donc voilà, là, il y a un vrai problème. Qui soutient le développement durable ? Pas nécessairement les habitants des territoires où sont implantés les projets à risque.
On voit bien qu'on est vraiment dans une période de transition.
Absolument.
On verra, par exemple, demain, avec ce résultat du référendum de Notre-Dame-des-Landes, dans quel sens ça bascule. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci aux techniciens de France Bleu Sud-Lorraine de nous avoir permis de réaliser ce duplex. Les références de vos livres et de vos collectifs sont en ligne sur la page internet de l'émission. Tapez « C'est pas du vent » dans les moteurs de recherche. Restez sur RFI. Dans quelques minutes, juste après le flash d'info, nous irons en Hongrie, où là aussi, ce n'est pas l'intérêt général qui prime. Vous verrez comment le gouvernement hongrois a réussi à accaparer 80% des terres fertiles du pays au profit des élites du pays. À tout de suite.
Écho d'ici.